Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nainar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « Un manuscrit a disparu » est un roman historique de Marie-Hélène Texier situé en 248, à l'Université de Paris. L'intrigue repose sur la disparition d'un manuscrit dont le contenu pourrait renfermer des connaissances dangereuses, ce qui place au centre du récit la tension entre savoir, autorité et risque. Le livre mobilise des figures intellectuelles du XIIIe siècle, notamment Albert le Grand et Roger Bacon, pour construire une enquête médiévale nourrie par la logique, l'érudition et l'observation. À mi-chemin entre romans d'ambiance et récits à suspense, il s'adresse au lecteur qui apprécie les fresques historiques fondées sur un cadre savant précis. L'ouvrage explore aussi la manière dont les idées circulent, se cachent ou se transmettent dans un monde universitaire très structuré, où la recherche de vérité peut devenir une affaire politique et morale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une enquête médiévale fondée sur la disparition d'un savoir écrit. Le point de départ du roman est simple mais efficace, un manuscrit manque, et cette absence déclenche l'enquête. Dans un cadre médiéval, le manuscrit n'est pas un objet neutre. Il représente à la fois un support de transmission du savoir, un signe d'autorité intellectuelle et un possible danger si son contenu dépasse les limites admises. Le roman exploite donc un ressort narratif très concret, la perte d'un document, pour faire émerger des enjeux plus larges sur le contrôle de la connaissance. Cette approche donne au mystère une portée symbolique. Retrouver le manuscrit ne consiste pas seulement à résoudre une énigme, mais aussi à rétablir un ordre menacé. Le récit s'inscrit ainsi dans une tradition d'enquête historique où l'objet recherché est aussi porteur de sens. Le livre tire sa force de cette articulation entre intrigue et réflexion, car le lecteur comprend vite que le vrai enjeu n'est pas seulement de localiser un texte, mais de mesurer ce que certains veulent préserver, cacher ou empêcher de circuler. Deuxièmement, l'Université de Paris en 248 comme décor intellectuel et social. Le choix de l'Université de Paris en 248 donne au roman un ancrage historique précis qui structure toute l'atmosphère du récit. Ce cadre ne sert pas uniquement de toile de fond pittoresque, il permet de représenter un lieu où le savoir est organisé, discuté et hiérarchisé. Le Moyen-Âge universitaire est ici montré comme un espace d'échange, mais aussi de rivalité, de méthode et d'autorité. Les salles d'études, les maîtres, les étudiants et les disciplines évoquées composent un milieu où la connaissance a une valeur sociale forte. En situant l'intrigue dans cet environnement, Marie-Hélène Texier peut faire sentir la densité culturelle du XIIIe siècle sans se limiter à un décor folklorique. Le roman met en évidence une époque où l'étude des textes anciens, la logique et la théologie se croisent constamment. Cela renforce la crédibilité du mystère, car la disparition d'un manuscrit dans une telle institution prend immédiatement une dimension collective. Le livre montre ainsi que l'université médiévale est un lieu où l'intelligence elle-même devient un enjeu dramatique. Troisièmement, Albert le Grand et Roger Bacon, l'autorité du savoir face à l'incertitude. La présence d'Albert le Grand et de Roger Bacon est centrale, car elle donne à l'intrigue une forte légitimité historique et intellectuelle. Ces figures connues de la pensée médiévale incarnent la recherche, l'analyse et la curiosité savante. Dans le roman, leur inquiétude face à la disparition du manuscrit n'a rien d'anodin si de tels maîtres se préoccupent d'un texte perdu. C'est bien que celui-ci possède une importance particulière. Leur rôle permet aussi d'introduire une tension intéressante entre maîtrise du savoir et limite de la raison. Le roman suggère que même les esprits les plus brillants peuvent être déstabilisés par une situation réelle, complexe et mouvante. Cette opposition entre savoir livresque et expérience concrète est au cœur du dispositif narratif. L'intrigue devient alors un test de leur méthode, de leur logique et de leur capacité à agir dans un monde moins ordonné que les textes qu'ils étudient. Le roman valorise ainsi la figure du savant tout en rappelant que la connaissance ne garantit pas la certitude absolue. Quatrièmement, des étudiants enquêteurs et la mise à l'épreuve de la logique, le roman confie la recherche du manuscrit à trois étudiants brillants, Francis Keats, Henri Anville et Tommaso d'Aquino. Ce choix est important, car il déplace l'action du côté de jeunes esprits formés à la logique et à l'argumentation. Leur mission montre que l'enquête ne repose pas seulement sur des intuitions, mais sur une méthode intellectuelle héritée des études médiévales. Pourtant, le récit semble précisément mettre à l'épreuve cette confiance dans les raisonnements abstraits. Les personnages appliquent leurs outils d'érudition à une affaire concrète et découvrent que le réel résiste souvent au modèle appris. Cette dynamique donne au roman une dimension à la fois didactique et critique. Il ne se contente pas de montrer des étudiants compétents. Il observe ce qui arrive quand la pensée théorique se confronte à des situations humaines, incertaines et parfois contradictoires. L'intérêt du livre tient donc à cette tension entre formation intellectuelle et expérience vécue. En faisant de jeunes étudiants les acteurs de l'enquête, il souligne aussi la transmission du savoir, non comme une certitude figée, mais comme un apprentissage confronté au monde. En dernier lieu, érudition, humour et critique du décalage entre livre et réalité. Au-delà de l'intrigue, le roman semble jouer sur un ton mêlant érudition et humour, ce qui le distingue d'un simple récit historique académique. La matière savante n'y est pas présentée comme un bloc pesant, mais comme un terrain d'observation des comportements, des idées reçues et des maladresses humaines. Le titre même annonce une enquête, mais le développement du récit met en avant le décalage entre les modèles intellectuels et la complexité de la vie réelle. Cette idée est essentielle pour comprendre la portée du livre. Il ne s'agit pas seulement de résoudre une énigme médiévale, mais de montrer comment les savoirs se heurtent à l'imprévisible. Le roman gagne ainsi en accessibilité, car l'érudition est intégrée à une narration vivante. Ce mélange peut séduire les lecteurs qui aiment apprendre tout en suivant une intrigue. Il peut aussi intéresser ceux qui recherchent un roman historique moins décoratif que réflexif, capable de faire sentir les limites de l'intelligence systématique sans renoncer au plaisir du récit. En conclusion, un manuscrit a disparu conviendra surtout aux lecteurs de romans historiques qui recherchent un cadre médiéval précis, une intrigue d'enquête et une réflexion sur le statut du savoir. Ceux qui s'intéressent à l'Université de Paris, aux figures d'Albert le Grand et de Roger Bacon, ou plus largement à la culture intellectuelle du XIIIe siècle, y trouveront un terrain particulièrement riche. Le livre présente un avantage net par rapport à beaucoup de romans historiques de même type. Il ne se contente pas de reconstituer une époque, il interroge la circulation des idées, la valeur des textes et l'écart entre le raisonnement savant et la réalité concrète. Cette double dimension, narrative et réflexive, lui donne une identité propre. Il peut donc intéresser à la fois les amateurs d'énigmes érudites et les lecteurs sensibles aux questions de transmission du savoir. Son intérêt tient aussi à sa capacité à faire vivre un univers universitaire médiéval sans l'enfermer dans une sécheresse documentaire. En ce sens, c'est un roman qui apporte autant une atmosphère qu'une matière intellectuelle. Si vous souhaitez soutenir Marie-Hélène Texier, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.